Père, je veux te remercier pour le plaisir de se retrouver en Église ce matin. Merci Seigneur pour la joie d'être ensemble ici ce matin. De retrouver des amis, de retrouver une famille, d'être là pour s'encourager les uns les autres, prendre soin les uns des autres, Seigneur. Merci pour le privilège de s'assembler, de pouvoir chanter des chants en toute liberté, à ta gloire, à ton honneur, puis laisser ces paroles faire leur place dans nos cœurs, afin que nous t'adorions, Seigneur, en esprit, en vérité ce matin. Père, merci pour ta parole. Ta parole qui sonde nos cœurs, qui nous instruit dans tes voies, et ton esprit qui vient appliquer cette parole dans nos vies. Seigneur, il va sans dire que c'est toi le modèle parfait de la générosité. Ton œuvre à la croix est incomparable, Seigneur, et personne ne pourrait prétendre être généreux comme toi. Ce matin, on veut te demander de parler à l'Église de l'Espoir, de parler à cette assemblée, de nous parler à nous, Seigneur, comme individus, comme chrétiens, mais comme famille, comme Église aussi, afin de nous montrer comment tu nous appelles à grandir, Seigneur. Viens nous inspirer par l'Évangile et viens nous inspirer par le modèle, Seigneur, de ces chrétiens de la région de la Macédoine. Parle-nous ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, on va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu.
La lecture biblique de ce matin se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 9. Dans l'édition Second 21. 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 9. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste. Ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi ce geste de générosité, comme il l'avait d'ailleurs commencé. De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis.
Merci, chérie. Quand je dirai ça à Luc Panton, vous poserez des questions. C'est bon, je m'en occupe. Ça va. Alors, Jésus est au temple, il est avec ses disciples, ils sont assis, ils sont en train de jaser, une sorte de conversation. Puis pas tellement loin d'eux, il y a un coffre, un tronc où les gens vont déposer des offrandes. Jésus regarde les gens passer, puis il observe. Puis à un moment donné, il s'arrête. Il voit des riches qui passent, puis qui donnent, bien, selon leurs moyens, ils donnent généreusement. Puis à un certain moment donné, il y a une dame, c'est drôle, j'ai toujours pensé qu'elle était vieille parce que c'est une veuve. Je suis désolé, mesdames. Mais il a fallu que j'aille me relire parce que j'avais écrit une vieille veuve. J'ai dit, es-tu vieille vraiment? Fait qu'à un moment donné, Jésus est là, puis il y a une veuve qui passe. Puis à ce temps-là, encore plus qu'aujourd'hui, elle pouvait être très jeune, les veuves. Donc, il y a une veuve qui s'approche du tronc, puis elle dépose deux petites pièces de monnaie. J'avais pensé vous montrer les images, mais quand on parle à l'époque de petites pièces de monnaie, là, c'est plus petit qu'un 10 cents, OK? C'est vraiment minuscule. Elle dépose ces deux pièces-là dedans. Puis Jésus arrête ses disciples, puis juste en commentant ce qu'il a vu, il dit ceci. « Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, en fait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Quand on parle de générosité, c'est jamais la quantité qui est importante. C'est toujours la capacité. C'est jamais la quantité. Lorsque quelqu'un qui possède beaucoup, beaucoup, donne beaucoup, c'est déjà moins que lorsqu'une personne qui est très pauvre donne un peu. Et ça, c'est la réalité avec la générosité. On a de la difficulté à le penser comme ça. Lorsque les gens réussissent à donner beaucoup à une œuvre de charité, à n'importe quoi, à la Croix-Rouge, à Centraide, à l'Église, peu importe, ils donnent un gros montant. Ça fait les journaux. C'est quelqu'un de généreux. C'est très relatif, ça. Parce que la générosité, c'est une attitude de cœur. Et ça, ça se mesure donc jamais à la quantité. Ça se mesure toujours à la capacité. Et combien est-ce que je vais donner? On va voir ensemble ce matin que la générosité est une règle fondamentale du royaume de Christ. Mais en même temps que c'est une règle, c'est pas une question de loi, c'est plutôt une question de joie. D'accord? Alors, tournez avec moi dans 2 Corinthiens 8, si vous n'y êtes pas déjà. Et on va commencer avec les Macédoniens. Quand les pauvres deviennent riches. Quand les pauvres deviennent riches. Quand tu étudies la Bible, puis tu étudies l'Évangile, puis tu commences à comprendre un peu le concept du royaume de Dieu. Christ est le roi. Il est venu instaurer le royaume de Dieu. Il y a des règles de vie dans ce royaume-là qui sont complètement différentes des règles que tu vas trouver dans le monde ordinaire. Et déjà, ceux qui sont entrés dans son royaume parce qu'ils sont devenus des fils et des filles de Dieu en croyant en Jésus-Christ, bien déjà, ces gens-là vivent selon d'autres règles, d'autres modes de vie. Puis il y a des paradoxes ou des paradoxes apparents dans ce royaume-là, dans ces règles de vie-là. Par exemple, Jésus-Christ qui mérite toute la gloire. Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, celui qui avait tous les honneurs, s'est complètement dépouillé, s'est fait le plus pauvre même de tous les hommes parce qu'à la croix, il est allé prendre les péchés des hommes. Donc il s'est fait notre serviteur. C'est tout un paradoxe pour le monde, cette idée-là. Et lorsqu'on arrive dans ce passage-là, on assiste à un autre paradoxe qu'on trouve ici. Et c'est de voir dans ce passage que les chrétiens les plus pauvres sont peut-être ceux qui sont en fait le plus riches en bonnes œuvres. Ceux qui sont les plus pauvres, les plus démunis dans le royaume de Dieu peuvent se démarquer comme en fait étant les plus riches spirituellement parce que les plus riches en bonnes œuvres. Regardez le passage avec moi, versets 1 et 2, on va juste le relire. « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine à travers la grande épreuve de leurs afflictions, de leurs souffrances, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités ou générosités de leur part. » Regardez ce qui se passe avec le mot « grâce » ici dans le passage. C'est vraiment intéressant ce que Dieu fait avec ça. Lorsque vous pensez au mot « grâce » comme chrétien, vous pensez probablement au salut, n'est-ce pas? On est sauvé par la grâce, Éphésiens 2, 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc la grâce nous sauve, d'accord? C'est par la grâce qu'on est sauvé. Les chrétiens de la Macédoine ont été sauvés par grâce. Mais la grâce de Dieu, lorsqu'elle entre dans notre vie, lorsque Dieu nous fait grâce et nous sauve, la grâce de Dieu ne s'arrête pas là. En théologie, on va parler parfois de la grâce opérante. Cette grâce qui entre dans ma vie lorsque je viens à la connaissance de Jésus-Christ, mais qui n'arrête pas son œuvre à ce moment-là. Cette même grâce-là qui m'a sauvé va me transformer et va éventuellement se manifester par toutes sortes de comportements, toutes sortes d'agissements que je vais avoir. Donc, on va parler de la grâce opérante de Dieu, qui est en train de me transformer, qui est en train de me former. Et donc, lorsque comme chrétien, j'ai un conflit avec quelqu'un, puis après ça, j'entre en moi-même, je réfléchis, puis je me dis, « Bon, écoute, peut-être qu'il n'était pas correct, mais j'ai mal réagi, j'aurais dû écouter, peut-être qu'il y avait quelque chose d'important, tu sais. » Puis je décide d'aller vers la personne et dire, « Écoute, je suis désolé, on peut-tu reprendre cette conversation-là? » Elle s'est mal passée. À ce moment-là, c'est la grâce opérante de Dieu qui est en train d'agir en moi. Cette même grâce qui m'a sauvé par la puissance de l'Esprit-Saint est en train de continuer son œuvre en moi pour me transformer. Lorsque il y a quelque chose dans ma vie, puis quelqu'un vient me voir, puis prend le temps de me parler, puis ma vision des choses change, mon cœur est mieux disposé au bien. J'ai raison à ce moment-là, non seulement d'être content de voir ce qui se passe dans mon cœur, mais en même temps de m'adresser à Dieu et de dire, « Seigneur, ta grâce est en train de me transformer. J'ai raison de me réjouir puis de voir en cela l'œuvre de Christ dans ma vie. » C'est la grâce opérante qui est en train de me transformer. Et j'ai une évidence à ce moment-là que Dieu est à l'œuvre dans mon cœur. C'est ça qui est en train de se passer ici avec les chrétiens de la région de la Macédoine. La grâce opérante de Dieu vient faire une différence dans leur vie. Puis ça crée une espèce de paradoxe encore une fois. Regardez bien l'espèce de combinaison que ça va donner au verset 2. L'apôtre Paul dit, à travers la grande épreuve de leurs afflictions, leurs souffrances, leurs épreuves, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit une abondance de riches libéralités de leur part. Est-ce que vous voyez le paradoxe? Ces gens-là ont été sauvés par Christ, ils ont reçu la grâce de Dieu dans leur vie, ils sont en train de traverser des épreuves. On doit déduire que cette joie débordante, c'est le fruit justement de cette grâce. Ils savent qu'ils sont des enfants de Dieu, que leur Père est au contrôle des épreuves dans leur vie, que s'il y a de la souffrance dans leur vie, Dieu souverain est en train de s'occuper d'eux. Ils ont l'espoir dans l'éternité, de toute façon, d'être avec Dieu pour l'éternité. Et donc, vous avez cette joie-là d'une part, mais d'un autre côté, c'était peut-être les chrétiens les plus pauvres du moment. Paul nous dit qu'ils étaient extrêmement pauvres. Leur pauvreté était profonde. Mais quand ces deux choses-là se rencontrent, leur joie débordante avec leur pauvreté profonde, en vertu de la grâce qui opère en eux, l'œuvre de l'Esprit en eux, qu'est-ce que ça produit? Un paradoxe. Une grande générosité. C'est ça que ça produit en eux. Ça produit une grande générosité à ce moment-là. C'est ça les paradoxes du royaume. Lorsque l'apôtre Paul dit que l'Évangile est une puissance de Dieu, c'est une puissance qui nous transforme et qui continue encore à nous transformer constamment. Et par conséquent, il tenait absolument à participer. Il voulait donner, il voulait participer. C'était pas une question de loi pour eux. Il y avait une règle, on va le voir ensemble, mais ce n'était pas une question de loi, c'était une question de joie. Le texte va plus loin, si vous regardez un petit peu plus loin dans le passage, au verset 3 et 4, « Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. » C'est le même mot « grâce » que j'ai ici. Voyez-vous, ce mot-là, c'est le mot en grec, c'est le mot « charis » qui est là. Le traduire en français par un autre mot que « grâce », ce serait « bonté envers quelqu'un ». Et donc, lorsqu'on lit Éphésiens 2, 8 et 9, on va en parler un petit peu tantôt à la réunion, je vais dire un mot là-dessus, puis je vais revenir sur Éphésiens 2, 8 et 9. Lorsqu'on parle du mot « grâce » dans Éphésiens 2, 8 et 9, « car c'est par la grâce que vous êtes sauvés », en d'autres mots, en français, on dirait « car c'est par la bonté de Dieu que vous êtes sauvés ». Puis le mot « bonté » qui est là, le mot « grâce », c'est « bonté envers une personne ». Il y a à la fois un donateur, puis il y a quelqu'un qui reçoit. Vous êtes sauvés par les bontés de Dieu, pas par vos œuvres, par les bontés de Dieu. Et là maintenant, cette bonté-là de Dieu s'est manifestée, nous dit l'apôtre Paul au verset 1, dans les églises de la Macédoine, parce que l'amour de Dieu, la générosité de Dieu a transformé ces gens-là à un point tel que bien qu'étant pauvres, leur joie dans l'Évangile fait qu'ils deviennent généreux. C'est encore la grâce de Dieu qui fait que les Macédoniens eux-mêmes pouvaient être les plus grands bénéficiaires du fait qu'ils sont en train de donner, parce qu'au moment où ils donnaient, ils voyaient l'œuvre de Dieu en eux. Je n'étais pas comme ça avant. Je ne portais pas ces fruits-là avant. Moi, Yannick, je n'étais pas quelqu'un comme ça. Mais lorsque je vois l'œuvre de l'Esprit, le fruit de l'Esprit en moi, je peux me réjouir et dire, « Seigneur, c'est tes bontés envers moi qui fait de moi quelqu'un qui est disposé au bien. » Ce n'était pas ça mes dispositions avant de connaître l'Évangile. Mais tu as changé mon cœur. Et maintenant, les Macédoniens sont rendus à un autre endroit. Ils disent, « Vous n'avez pas le droit. » Vous n'avez pas le droit de nous priver du privilège de donner. Mais ils sont pauvres. Vous comprenez, ce n'est pas eux qui vont faire la plus grande différence. Ce n'est pas quand tu vois un riche qui donne, tu sais, parce qu'un riche qui donne, ça change bien des affaires quand il donne beaucoup. Mais on ne parle pas de générosité lorsqu'on aborde la question comme ça. Ça, ce n'est pas une question de générosité, c'est une question de moyens. Et pour les Macédoniens, ils disent, on comprend, on n'a rien, on le sait. Peut-être que c'est nous qui devrions être aidés, mais vous ne pouvez pas nous priver du privilège de donner. Parce que c'est une grâce que vous nous faites. C'est un privilège que vous nous faites lorsqu'on peut donner. Et donc, si vous êtes dans le besoin, puis vous êtes dans la communauté de Dieu, quand vous ne faites pas connaître vos besoins, vous privez probablement quelqu'un de la grâce de pouvoir donner, de pouvoir vous aider. Quand vous traversez des moments difficiles, puis vous gardez vos luttes pour vous-même, puis quelqu'un aurait besoin juste de vous donner du temps, son oreille, puis prier avec vous, puis vous ne faites pas connaître ce besoin-là. Vous privez peut-être un frère, une sœur de cette grâce-là de pouvoir donner. Parce qu'on est habité par l'Esprit Saint, puis cette grâce opérante-là en nous veut nous transformer. Veut produire des fruits à la gloire de Dieu constamment. Pouvoir participer au royaume de Dieu en donnant généreusement, c'est un privilège, c'est une grâce, c'est une règle du royaume. Ce n'est pas une loi, c'est une question de joie. Mais c'est une règle du royaume. Et on va regarder un autre paradoxe qu'il y a dans le passage qui est probablement celui qui est la source, dans le fond, de tout. C'est le paradoxe qui concerne la personne de Christ. Et j'ai intitulé ce point-là « Quand le riche devient pauvre ». Quand les pauvres deviennent riches, à cause qu'ils sont enrichis de l'Évangile puis ils sont transformés. Mais quand le riche, lui, devient pauvre pour nous. 2 Corinthiens 8, 9. « Car vous connaissez la grâce », le même mot « grâce », le même mot en grec. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » C'est le paradoxe du royaume. Lui était riche. Et il s'est dépouillé. Quand Christ partage son nécessaire, il y a quelque chose d'intéressant dans le texte, je n'ai pas le temps de tout développer le passage ce matin, mais si vous avez vos Bibles, allez un petit peu plus loin, juste pour voir au verset 13. Puis je vais juste vous le lire. « Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. » Alors le contexte, Paul est en train de faire une collecte de fonds pour aider les chrétiens de la région de Jérusalem, d'accord? Et aux chrétiens de Corinthe, il leur dit, prenez l'exemple des Macédoniens, mais il est déjà quand même un petit peu en train d'atténuer ça, puis il dit, il ne s'agit pas là, de vous mettre dans une situation impossible. Là. C'est juste, votre superflu va pourvoir leurs besoins, puis un jour peut-être que leur superflu pourvoira au vôtre. Mais lorsqu'on arrive à Christ, on parle d'autre chose. Jésus-Christ était au ciel dans sa gloire, il y avait les anges, il était adoré, il était célébré, il était dans toute sa magnificence. Et puis il voit la condition de l'homme, il voit l'humanité, il voit comment ça va mal sur la terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend un peu de son superflu, décide de, délégué quelques centaines d'anges pour aller sauver les hommes. Puis il dit, bah, on a des troupes en trop de ce temps-ci. On leur a envoyé peut-être quelques milliers d'anges, puis ils vont aller sauver les hommes. C'est pas ça que Christ a fait. Si Paul dit aux chrétiens de Corinthe, il s'agit juste de donner de votre superflu, pas besoin de vous appauvrir là, puis de vous mettre dans une situation terrible. Christ, lui s'est appauvri. Vous comprenez, il était dans sa gloire. Il était dans sa majesté, il était adoré, il était célébré, il était auprès de son Père, il avait absolument tout. Et il s'est littéralement complètement dépouillé. Il a renoncé à toute sa gloire, à toute sa majesté. Il a quitté la présence de son Père pour venir sur la terre. Et en venant sur la terre, il est devenu un simple homme que les hommes ne reconnaîtraient pas. Et non seulement il s'est humilié comme ça, mais il s'est rendu à la croix. Il s'est rendu à la croix, et sur la croix, il s'est fait le plus pauvre de tous les hommes. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que lorsqu'il était sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait pour que nous, on devienne riches? Il a pris les péchés de tout le monde ici, de tous ceux qui croiraient en lui. Il a pris les péchés des hommes sur lui, en entier, mes péchés, les tiens. Il les a tous pris, et à ce moment-là, la colère de Dieu, la colère de son Père a déferlé sur lui, parce qu'il est devenu péché. Il a été fait péché. Il a pris le jugement qui nous était réservé à nous, et il l'a reçu sur lui-même. Il est devenu, à ce moment-là, le plus pauvre de tous les hommes, parce que son Père a détourné le regard de lui à cause de tes péchés puis des miens, pour que toi et moi, on puisse être enrichis du salut. Du salut. C'est pour ça que je dis que c'est une règle qu'il y a dans le royaume. Christ nous a libérés de notre culpabilité. Je vais juste faire une petite parenthèse, toute courte. Vous venez ici, puis vous écoutez les messages de la parole de Dieu, puis je ne sais pas comment ça va dans votre vie. Moi, je ne suis pas dans votre peau. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes chaud pour le Seigneur? Ça ne va pas bien. Vous êtes endormi. Puis là, vous écoutez le message de la parole. Puis dépendamment où est-ce que vous êtes, puis dépendamment comment ça va dans votre cœur avec le Seigneur, vous recevez ça comme des devoirs, des fardeaux qui sont déposés sur vos épaules, puis une tonne de culpabilité ou de l'encouragement. Puis ça, c'est... Vous comprenez? Moi, je ne suis pas Dieu. Dieu ne m'envoie pas un fichier personnel sur tout le monde ici dans la salle, puis il me dit « Voici comment tu vas personnaliser ça ce matin. » Ça ne fonctionne pas comme ça, Dieu merci. C'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre. Et c'est le Saint-Esprit qui vient appliquer ça dans vos cœurs. Maintenant, si votre théologie est déficiente, si votre compréhension de Dieu est déficiente, ça se peut que vous receviez très mal le message. Fait que tu reçois le message ce matin et tu dis « Bon, un autre message sur la générosité. » Mais là, tu commences à filer cheap, tu commences à te sentir coupable. À te sentir coupable. Si tu es en Jésus-Christ et que tu es encore coupable, c'est que Christ n'a pas fini de se dépouiller à la croix. Si tu es en Jésus-Christ, tu n'es plus coupable. Tes péchés passés, présents et à venir sont pardonnés. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu n'as pas placé ta foi en Christ, tu n'as pas saisi cette grâce-là du Christ crucifié qui prend tes péchés sur ses épaules, tu es encore coupable. Et oui, il y a raison pour toi de dire, mais c'est bien lourd le christianisme, c'est bien lourd cette affaire-là. Oui, parce que tu essaies de performer comme un chrétien. Il n'y en a pas de chrétien qui performe bien, il y en a juste un, il s'appelait Christ, Jésus-Christ. C'est le seul qui a vraiment bien performé. Mais pour tous les autres, à partir du moment où tu es en Jésus-Christ, tu n'es plus coupable. Tes péchés passés, présents, à venir sont pardonnés. Ça se peut que l'Esprit soit en train de te parler. Ils sont en train de te dire, regarde, il y a un domaine où ma grâce opérante veut travailler en toi. Ça se peut que tu aies à te repentir et à dire au Seigneur, viens continuer à me transformer. Mais tu es déjà un aimé de Dieu, un bien-aimé de Dieu. Et donc, aucun message qui est apporté ici dans l'Église est là pour vous accabler de culpabilité. Si c'est ça le fruit que ça donne dans vos vies, que Dieu m'instruise, c'est pas ça l'Évangile. Vous n'êtes plus coupable. Amen. Vous n'êtes plus coupable. Vous êtes gracié. Ça ne veut pas dire que l'œuvre de Christ s'arrête là, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il ne me convainc pas qu'il y a un domaine où il y a un péché qui est là, puis je dois m'en repentir. Mais Christ m'a déjà pardonné dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et ça ne veut pas dire que je vais m'asseoir sur ça, puis que je vais mépriser la grâce, puis je vais rester dans mon péché. Mais non. La grâce opérante de Christ en moi ne permet pas que je m'abandonne infiniment à ça. Dieu va venir me travailler. Mais c'est une conviction que l'Esprit veut produire dans ton cœur pour qu'il y ait un fruit de l'Esprit qui soit là, qui soit évident. Et recevez comme ça les exhortations qu'on apporte dans l'Église ici. Je vous le demande, parce que avec Jésus-Christ, il y a une règle qui a été instaurée dans le royaume de Christ. Et cette règle-là, c'est la règle de la générosité. Christ, en venant sur la croix, a établi un pattern. Voici comment Vernon Pierre le dit, si je peux retrouver ma citation. Je vais le dire comme ça. L'Évangile produit un modèle, un pattern de générosité. Jésus-Christ a parti une grande roue qui tourne constamment. Et on assiste à ce paradoxe-là. Il était riche, il est devenu pauvre, afin qu'on devienne riche. Mais une fois qu'il s'est appauvri, le Père l'a ressuscité d'entre les morts, lui a rendu toute la gloire, l'a élevé même au-dessus de tout nom. Donc, il a été lui-même enrichi. Non seulement il a été enrichi de la gloire que le Père lui a donnée, mais il ramène avec lui au ciel des milliers de fils et de filles pour le royaume de Dieu, pour la gloire du Père. Et donc, lorsque je comprends ce pattern-là de l'Évangile, la générosité devient pour moi une règle du royaume. Je cherche les opportunités de m'appauvrir pour enrichir des gens avec mon temps, avec mon argent, avec mes conseils, en m'arrêtant, en prenant du temps avec les gens. Et je sais qu'en faisant cela, je suis en fait en train de m'enrichir de fruits spirituels à la gloire de Dieu. Alors pourquoi est-ce que l'apôtre Paul écrit tout ça aux chrétiens de Corinthe? Pourquoi est-ce qu'il leur donne l'exemple des chrétiens de la Macédoine? Parce qu'il veut voir en eux une excellente manifestation de la grâce. Et je veux terminer sur cette idée-là, parce que c'est quelque chose avec laquelle des fois on a de la difficulté. Justement, c'est pour ça que je suis revenu tantôt sur la question de la culpabilité. Des fois, on a de la difficulté à saisir que l'œuvre que Christ veut produire en nous n'a pas de limite. Elle n'est pas contrainte. Regardez avec moi les versets 7 et 8. « De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. » Dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres, des Macédoniens, la sincérité de votre amour. Et donc, ce que Paul cherche et ce que l'Esprit de Dieu cherche à produire dans l'Église de l'Espoir, dans l'Église de Corinthe à l'époque, c'est une œuvre excellente. Et le terme qui est là pour excellence, c'est pas perfection, d'accord? C'est un autre sens vraiment différent. Le sens du mot grec qui est là, c'est dans le sens d'abondance. Mais c'est une abondance comme excessive, une surabondance. Ça déborde, ça n'arrête pas. Et donc, ce qu'il est en train de dire, c'est de même que vous débordez dans votre passion pour la parole de Dieu, de même que vous débordez dans votre désir de servir les gens dans votre famille, de même que vous débordez par votre désir de marcher dans la sainteté, débordez, excellez aussi en bienfaisance, en générosité. Et donc, l'Esprit de Dieu veut produire cette œuvre excellente dans l'Église de l'Espoir. C'est pour ça que je vous ai dit au début de la série, écoutez, on s'est dit... C'est pas qu'on est là pour dire que l'Église ne brille pas. On n'est pas là pour dire que l'Église de l'Espoir, ah, ça va mal, ça n'a pas de bon sens. C'est pas ça. C'est qu'on cherche la maturité en Jésus-Christ. Et cette œuvre-là n'est pas achevée. Et donc, il y a toujours la place pour nous pour examiner dans nos vies personnelles, dans notre famille, dans notre gestion financière, par exemple, dans notre gestion de notre temps, et de s'interroger puis de dire... Comment est-ce que je peux être généreux? Comment est-ce que je pourrais aider? Qu'est-ce que je pourrais faire pour donner un coup de main? Comment est-ce que je peux faire davantage Mais encore une fois, pas davantage avec la culpabilité, mais en prenant exemple sur les chrétiens de la Macédoine. Il n'y avait pas de fardeau là-dedans. Ah, il faut que j'en fasse encore plus. Il faut que j'en donne encore plus. Toujours les mêmes qui font renaître l'Église, toujours les mêmes qui sont en train de servir. Ils étaient comme pas là. Les autres ne veulent pas donner, laissez-nous le privilège de le faire, s'il vous plaît. C'est une grâce. C'est une grâce. Et donc, c'est cette joie-là qui est là. C'est une règle de joie qui est là. Et c'est pour ça qu'il leur donne ces gens-là en exemple. C'est pour ça qu'il leur donne les Macédoniens en exemple. Puis peut-être que dans vos vies, vous avez une personne. Peut-être que vous pouvez penser à une personne qui est pour vous un exemple de générosité. Est-ce que vous pensez à quelqu'un qui est un modèle pour vous? Générosité avec ses biens matériels. Générosité avec son temps, peut-être. Générosité avec son écoute. Tu sais, c'est quelqu'un, quand tu vas le voir, il est toujours prêt à t'écouter. Il est toujours prêt à t'écouter. Il y a cet accueil-là avec cette personne-là. Elle est généreuse de son attention. Dieu place ces gens-là dans nos vies autour de nous pour exciter en nous un zèle, pour nous donner du zèle, pour vouloir produire un fruit plus excellent encore pour l'Évangile. C'est pour ça qu'il les place là. Et donc, Paul se sent des chrétiens de la Macédoine. Puis ensuite, il se tourne vers la personne de Christ, puis il dit, comprenez, c'est une règle dans le royaume de Dieu. La générosité, c'est une règle. Ce n'est pas une loi. C'est plutôt une joie, mais c'est une règle parce que Christ a parti cette roue-là, cette grande roue-là. Maintenant, regardez les chrétiens de la Macédoine et soyez inspirés par leur générosité. Apprenez d'eux. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? L'argent va toujours être un bon moyen d'être généreux. L'argent que je peux donner, encore une fois, je l'ai dit, c'est pas la quantité, c'est la capacité. C'est ma générosité. L'argent va toujours être un bon moyen d'être généreux puis d'aider des gens, toujours. Mais il y a d'autres moyens aussi de le faire, je l'ai dit, avec du temps. Je pensais à un frère cette semaine, puis je me disais, il est à la retraite, Dieu lui donne la santé. C'est une abeille dans l'Église, mais pas juste ici dans le bâtiment. Toujours en train d'aider des frères et des sœurs dans l'Église avec du temps pour pouvoir aller puis donner un coup de main. Dieu lui donne beaucoup de temps, il est généreux. Certains d'entre nous, on est dans une saison de la vie où on n'en a pas de temps. Tu sais, tu as tes trois bambinos, puis ils arrivent de l'école, puis ça prend 2 heures pour faire du travail parce que les devoirs, parce qu'il y en a un qui est dyslexique, puis l'autre, il se fouille tout le temps dans le nez, puis ça avance pas, puis ta vie est full au coton. Tu sais, tu n'as pas de temps. Tu es aux études, puis tu as un job, puis tu es en train de fréquenter, puis tu n'as pas de temps. C'est pas la quantité. C'est la joie à donner. C'est l'attitude de cœur qui fait toute la différence. C'est une belle réflexion à faire cette semaine en famille. Voici la question que vous pouvez vous poser. C'est quoi les richesses que Dieu m'a données? Quelles sont les richesses que Dieu m'a données? Peut-être que c'est matériel. Peut-être que Dieu veut te challenger dans ce domaine-là. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses aussi que Dieu t'a donné, des talents, des dons, des capacités. Une capacité à écouter les gens, à les encourager. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu... Il t'a donné un char, une voiture. Puis tu peux donner une ride à quelqu'un qui a besoin d'une ride. Peut-être ça, je ne sais pas. C'est quoi les richesses qu'il vous a données? En famille, quelles sont les richesses qu'il vous a données dans votre groupe de quartier? Super belle discussion à avoir ensemble. C'est quoi les richesses que Dieu a données à notre groupe? On regarde l'identité de notre groupe, là. C'est quoi nos ressources à nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme Église, l'Église de l'espoir... On vous invite à prier, à chercher la face de Dieu, à venir nous voir. Allez voir les anciens, allez voir des leaders. Réfléchissez à ça. C'est quoi les richesses que Dieu nous a données à nous ici? Et avec lesquelles on peut bénir, on peut prendre soin, on peut imiter cette règle-là du royaume. Priez sur ça, cherchez la face de Dieu. Puis concrètement, par où commencer si c'est dans le domaine des finances, puis tu regardes tes finances, puis tu te dis, regarde, je suis désolé, je ne suis pas un modèle, je ne suis pas généreux. Je ne suis pas généreux, mais mes finances, c'est n'importe quoi, puis ce n'est pas en ordre. Mais peut-être qu'il faut que tu commences par faire un état des lieux, avec le Seigneur, avec ta femme, tout seul, avec un ami qui peut te conseiller. Regardez l'état des choses, puis Dieu va peut-être te convaincre que tu dois te repentir. Grâce à l'Évangile, tu ne vas pas rester là, à te morfondre dans ta culpabilité. Christ a fait ça pour toi. Il est mort sur la croix. Juste te repentir, puis là, chercher la face de Dieu, puis dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je veux être généreux. Je veux donner généreusement. Je veux prendre soin des choses de l'Église ici. Je veux participer à la vie de mon Église, mais je veux être attentif à des gens autour de moi qui ont besoin. Je veux apporter des denrées à chaque semaine pour aider des chrétiens dans l'Église qui passent par des périodes difficiles. C'est le Seigneur qui va vous convaincre de ça. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. La générosité, c'est une règle fondamentale du royaume de Christ. On n'y échappera pas parce que c'est en vertu de sa générosité qu'on est entré dans son royaume. Notre roi, celui qu'on adore, qu'on célèbre, celui qu'on vénère, s'est dépouillé puis s'est fait serviteur. Et donc, la générosité, c'est une règle du royaume. Il y a un pattern que Christ a parti avec l'Évangile. Mais ce n'est pas une loi. Pas une loi comme on l'entend, quelque chose de lourd à porter. C'est une question de joie. C'est une question de la joie que Christ produit en nous. Christ a tout perdu pour que nous puissions tout avoir à notre tour. Et au verset 9, Paul dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis.